qui nous a semblé à la fois évidemment résonner avec la question des arts et des images numériques, mais aussi avec cette journée d'accélération aujourd'hui, parce que par son utilisation à la fois de différents médias liés aux nouvelles technologies, mais aussi par la mobilisation d'imaginaires pop, en l'occurrence, nous ont semblé résonner. Voilà, avec cette question de l'accessibilité. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Roman.
Ouais, ça marche. Bonjour tout le monde. Peut-être parce que je me suis dit, tout le monde n'a pas vu le spectacle, donc peut-être juste faire un bref résumé de qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble. En fait, on est sur nos petites tables, là, comme des nerds dans notre garage. En réalité, on a remis notre garage sur la scène. Et on s'est dit, on va faire une performance, on va dire au public, dès le début, le projet, ça va être d'écrire un scénario de film assisté par des IA. Moi, je suis écrivaine, c'est mon métier à la base, hein, Roman Nicolas, trouver mes livres partout. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, ça va être super. On va écrire ce scénario de film en collaboration avec ChatGPT à l'époque, parce qu'on l'a créé en 2022, donc c'était avant l'explosion de tous ces trucs. Et donc la perf, c'est ça, c'est on demande au public de nous donner des personnages, et puis on trouve ensemble quel type de film ça va être, si c'est un film d'action, un thriller, un film de science-fiction, une comédie romantique. Et puis on pousse un petit peu pour des personnages qui nous plaisent particulièrement et qui font écho évidemment avec notre sujet. Et puis ensuite, on demande à la machine, ici à ChatGPT, de nous générer les pitchs des trois films possibles. Et après, le public vote à l'apodimètre, on choisit le film, et là c'est parti, moi je me lance dans l'écriture, en collaboration avec la machine, on voit un petit peu comment je coécris avec elle. Il faut écrire trois scènes, le film en trois scènes, et en parallèle de ça, il y a d'autres trucs qui se passent que peut-être vous nous expliquez plus tard.
Tout à fait. Et pendant ce temps-là, on fait des petits numéros avec donc moi et Elio, où on explore tout un tas d'autres choses. En fait, on a un peu pensé le spectacle comme l'architecture du spectacle, c'est le scénario de film qu'on lit au fur et à mesure des scènes. Donc c'est rythmé par des lectures de scènes que l'IA fournit en collaboration avec Roman. Et entre chaque moment où on écrit ces scènes, on a des numéros qui sont interchangeables un peu en fonction des dates, en toute honnêteté, et qui sont autour soit de la robotique, soit de l'intelligence artificielle, et surtout du rapport qu'on a avec elle. Donc on a tout un numéro avec Elio, si tu veux présenter ton numéro, enfin, qui est le numéro qui tourne actuellement, puisque comme tous ces numéros sont interchangeables en fonction des dates.
Tout à fait. Et des interprètes, puisque du coup, il y a Flore Péchard sur cet écran qui n'est pas là, puisque je ne suis pas Flore Péchard. Donc je suis Hugo Jacquet. Et du coup, je remplace Flore là. Donc le numéro qui a été créé par Flore au départ, mais qui, du coup, quand je m'en suis emparé, a beaucoup changé. C'est un numéro autour des IA de génération d'images, et donc où j'ai généré pas mal de photos de moi, enfin de fausses photos de moi. Et du coup de travailler sur à la fois en tant que personne trans, qu'est-ce que ça fait de pouvoir générer des photos extrêmement masculines de moi, ou au contraire des photos beaucoup plus androgynes, de pouvoir jouer un peu avec ces questions de genre, de faire des avatars un peu qui sont des variations sur le thème de moi mais qui sont jamais vraiment moi, et aussi sur la question du coup d'explorer un peu les biais qu'a cette machine, notamment en lui présentant du coup des photographies réelles de quelqu'un qui a une présentation de genre atypique. Qu'est-ce qu'elle en fait et qu'est-ce qu'elle réussit à générer ou pas, à quel moment est-ce qu'elle ne comprend pas l'objet qu'elle regarde, puisque j'envoie des photos qu'elle considère comme étant plutôt être une femme, et que je lui demande de générer des photos d'hommes, et donc elle est dans ce trouble dans le genre finalement. Donc explorer un peu ce truc-là.
Donc oui, le projet du spectacle, c'est à la fois de développer une dramaturgie un peu singulière autour de la question du cirque, mais en imaginant un cirque, on fait sauter des IA, des machines dans des cercles de feu, et en parallèle, et puis en nous-mêmes aussi, on fait un peu de performance, et de réfléchir aux enjeux de lien entre machine, queer, et la vie, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'être vivant là-dedans. Et donc tout ce croisement-là fait qu'effectivement, on se retrouve... à devoir, par rapport aux questions ce matin, sur la question de comment ça s'appelait, j'ai oublié déjà, l'accessibilité, par rapport à l'accessibilité, justement, c'est qu'on s'est dit tout à l'heure, là, au repas, que nous, on a vraiment fait le chemin inverse de ce qui a été parlé ce matin.
Oui, en fait, enfin, inverse, mais c'est-à-dire que, donc, nous, on est une équipe de trans et nerds, et on a fait un spectacle qui nous ressemble, et on a plutôt fait le chemin de se dire, bon, on va diminuer notre niveau de geekerie pour que ce soit le plus accessible possible. Donc il y a énormément de vulgarisation, par exemple, dans le spectacle. On a fait le choix de continuer à utiliser ChatGPT plutôt que des intelligences artificielles qui pourraient tourner en local, par exemple, en disant « Ah bah c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée par tout le monde. » Donc on vulgarise comment est-ce qu'elle fonctionne, comment ça fonctionne en règle générale, les intelligences artificielles de génération de langage, de génération d'images. On essaye vraiment de pouvoir toucher, de pouvoir que ce spectacle puisse parler à des gens dans la salle qui sont ni trans, d'une part, et qui sont parfois complètement largués sur ces questions-là. Et donc on a beaucoup de passages dans le spectacle où moi je fais un peu Jamie, de Fred et Jamie, de C'est pas sorcier, où je m'occupe de vulgariser et d'expliquer vraiment comment fonctionnent les choses. Donc on a un peu fait... C'est pas vraiment le chemin inverse par rapport aux discussions de ce matin, mais disons qu'on n'a pas cherché à inclure les outils numériques dans le but de ramener un différent type de public. On a plutôt, nous, été des geeks queer dans le fond de notre garage qui se sont dit comment est-ce qu'on peut faire pour que notre niveau de nerderie soit accessible au plus grand monde et qu'on perde personne sur la route, que ce soit des gens qui découvrent ce que c'est que la transidentité ou des gens qui découvrent ce que c'est que l'IA.
Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, on passe notre temps chez nous à chercher, à bidouiller des bidules. Et c'est vrai qu'à force de les bidouiller, il y a des moments où on se dit mais est-ce que les gens vont saisir où est-ce qu'on va? Et puis partir dans des vrilles délirantes. Pour le prochain spectacle aussi, là, tout le travail de processus de création, c'est de d'abord partir dans tous les sens, faire de la recherche, essayer de construire des petites machines, des robots, des dispositifs, et puis se dire mais attends, là, à part les fous de Linux, personne ne va saisir ce qu'on est en train de faire. Comment on va faire pour que ce soit plus clair, quoi.
J'ai dit que mon travail arrive de dramaturge, je veux dire, là, on ne comprend rien. Je suis le moins geek des quatre, là. Et du coup, de venir dire, tiens, voilà, il y a plein de choses formidables qui se passent en termes de pensée, de création, etc., etc., mais comment est-ce qu'on va ensuite rendre ça transmissible et compréhensible de l'extérieur aussi, pour des gens qui sont là, pour le sujet.
Oui, et ça passe aussi, j'ai l'impression, par l'emploi très très présent, parce que c'est aussi notre culture, de la pop culture. C'est-à-dire que on est aussi des fans de séries, de trucs sur Internet, de vidéos YouTube, ce genre de choses, qui font qu'à l'intérieur de nos créations, à la fois on a une conscience de c'est quoi écrire pour le théâtre, c'est quoi penser une dramaturgie, parce qu'on a fait des formations pour ça, parce que c'est notre métier, et en parallèle on voit comment on inclut à l'intérieur de ça des schémas pop, des références pop, des choses comme ça, qui en fait font aussi, au pire, quelqu'un n'aura pas saisi qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la machine, va pouvoir se raccrocher au fait que, en fait, c'est la scène du film de Noël dans lequel le père est en train de rater le récital de sa fille. Et en fait, on voit très bien ce que c'est. On l'a tous vu, c'est dans Dayard, etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que
oui. Évidemment. Et de culture pop qui n'est pas forcément spécifiquement jeune, parce que par exemple, on a Terminator qui est en fait pas une régulièrement, ou Robocop, mais aucun des deux n'est une référence extrêmement jeune, disons. Mais justement, en fait, notre chemin était plutôt l'inverse, de se dire, bah, sur la question de l'accessibilité, j'ai l'impression que le débat ce matin tournait plus à comment est-ce qu'on vient choper un peu des publics plus jeunes. Et du coup, nous, c'était le contraire, de dire comment on fait pas un spectacle pour moins de 30 ans, parce que ce serait un problème aussi. Et du coup, se dire notamment sur la question de la culture pop, de mélanger un peu des références plus récentes et des références un petit peu plus anciennes. Surtout qu'on est un peu à la croisée de ces deux générations, disons, les tout premiers d'ici le monde.
Et pour revenir sur ce dont on parlait avec Ulysse tout à l'heure, sur la question des publics, donc nous on a en fonction des villes dans lesquelles, et des salles dans lesquelles on tourne, des publics qui sont assez différents, mais c'est vrai qu'on a cherché à la base, le spectacle fait beaucoup plus rire quand la salle est en majorité de personnes trans et queer, parce que je pense qu'il y a aussi une culture et un type de blague qui, je pense, résonne de façon différente en fonction de si on est trans, queer ou non. Mais on a justement cherché à, pareil, essayer de vulgariser sur ces questions-là et pas se dire « Ah tiens, il y a des prérequis. Peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une personne cisgenre. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une personne transgenre. Comment est-ce qu'on fait en sorte que dans la salle, tout le monde, même si ça n'arrive pas tout à fait au même endroit, tout le monde soit un peu au même niveau ?» Et c'est vrai qu'on a... Je prenais l'exemple tout à l'heure à table d'un théâtre où on a joué à Toulouse, dans lequel on va très régulièrement en tant que spectateur et spectatrice, et où quand on a joué, la salle était remplie à 70% par des gens que je n'avais jamais vu au théâtre, qui sont des personnes de la communauté queer de Toulouse, et qui ne se déplaçaient plus, je pense, dans ce lieu, tout simplement parce que il n'y avait pas de proposition qui leur ressemblait. Je dis ça parce que je rebondis sur ce que disait Clément en fin de journée tout à l'heure sur la question d'Orelsan et tout ça. Je pense aussi que ça fait du bien à certaines personnes de pouvoir voir une forme de culture qui leur ressemble sur le plateau. Mais on essaye de ne pas faire du communautarisme.
L'objectif, c'est quand même de faire en sorte que les salles de théâtre classique nous adhèrent, quoi, c'est ça aussi.
Et voilà. S'il y a des questions, on a été un peu. On a fait un peu l'embrouillamine. Allez-y.
Ce qui m'interpelle, c'est que dans une fiction, vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot de fiction. Or, j'ai l'impression que. Oui, je disais, vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot fiction, donc j'ai l'impression que votre travail est un travail sur l'écriture de fiction. D'abord, vous présentez ces romans comme scénariste, et vous voulez jouer de sale tour à la machine, et vous voulez lui faire dire des horreurs. Et vous y parvenez. Et vous y parvenez. Donc c'est un jeu entre deux imaginaires qui veulent présenter un odieux personnage, et vous y arrivez. En fait, vous arrivez à détourner l'esprit de la machine. Et ensuite, quand hier votre collègue vous a posé la question, mais quel rapport entre la transition de genre et le numérique, etc., etc. Et en fait, moi j'ai envie de dire que vous êtes dans une transition de genre, au même titre quand dans une transition d'outils fictionnels, parce que vous êtes référé à votre adolescence, au fait que de voir un avatar dans Second Life vous avez permis de vivre une réalité à travers de la fiction, ce qui vous était d'un grand secours, ce qui vous a permis de vous ancrer dans l'identité que vous vouliez forger, qui n'était plus alors fictionnelle mais qui devenait réelle. Et moi, je trouve que votre performance, elle m'indique ça. La transition de genre, c'est une transition d'outils fictionnels, et vous inscrivez parfaitement dans la thématique qui est la nôtre par rapport à ce que je viens de dire, me semble-t-il.
Oui, je peux répondre à ça, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il y a cet enjeu qui est hyper présent, et en même temps, à la fois qu'il y a cette chose-là, la transition fictionnelle, outils fictionnels, je trouve que c'est très bien formulé, et en même temps, on fait de la fiction au plateau. En même temps, il y a tout le temps de la fiction dans ce qu'on raconte, quand on écrit les scènes, quand j'écris une scène, on la lit, on la joue, on essaie de la jouer. Il y a tout ça à faire. Oui, complètement. Je peux revenir de plus.
Bah, et puis, en fait, quand tu dis il y a tout le temps de la fiction au plateau, il y a aussi beaucoup pas de la fiction au plateau.
Oui, c'est
exact. Parce qu'on alterne entre ces moments où on lit la fiction que tu as produite en partenariat avec l'intelligence artificielle de génération de langage, mais sinon beaucoup de choses, beaucoup de numéros sont plutôt de l'ordre de l'expérience scientifique, enfin, la démonstration des petits débrouillards, pour celles et ceux qui, comme moi, ont été aux petits débrouillards quand elles étaient enfants. Et donc qui n'est pas du tout de la fiction, qui est vraiment de la performance et de la démonstration en live. Et c'est cet aller-retour, et aussi c'est cet aller-retour qu'on fait un peu au plateau, parce qu'il y a beaucoup d'impro, comme je pense qu'on le sent, et il y a aussi beaucoup de choses qui sont présentées comme de l'impro, mais qui n'en sont pas. Bref, je suis en train de m'embrouiller, mais je trouve qu'on fait beaucoup ces allers-retours. Là, pour des gens qui sont plutôt habitués à faire de l'écriture fictionnelle, on a fait beaucoup d'allers-retours avec justement des trucs qui sont plutôt de l'ordre de la démonstration non fictionnelle. Maintenant, tout de suite, comment fonctionne ce robot avec vous qui êtes dans la salle.
Mais là, vous différenciez par rapport à la thématique de la transition de genre.
Oui.
Voilà. Donc en fait, ce sont des thématiques parallèles.
Tout à fait.
Voilà.
Effectivement, qui se croisent, il y a aussi la question de comment la fiction nous aide à rendre les choses réelles aussi. Oui. Je crois. Je vais juste reformuler la même phrase une deuxième fois, ça me fait beaucoup de sens.
Merci pour cette présentation. Je me demandais, en vous entendant parler de sujets qui vous sont aussi intimes, qu'est-ce que vous permet le plateau dans la représentation que vous en faites ? Qu'est-ce que ça permet d'augmenter, de dire en plus ou de dire autrement ? Qu'est-ce que le passage à la fiction, même s'il y a beaucoup d'intimes, mais en tout cas cet espace-temps fictionnel de la représentation, qu'est-ce que ça vous permet en tant qu'artiste ? par rapport à des sujets qui vous sont aussi, je dirais, chevillés au corps.
Est-ce que je peux prendre celle-là ? J'ai l'impression qu'il y a aussi déjà de cadrer du discours, c'est-à-dire d'avoir un espace où on peut parler de transidentité qui soit par nous, parce qu'il y a beaucoup de discours sur la transidentité vu de l'extérieur, disons. Et du coup, de pouvoir déjà d'avoir un espace où on maîtrise la forme du discours et ce qui est produit. Et aussi la pluralité, c'est-à-dire que c'est une chose qui était vraiment importante pour nous, de dire qu'il y a plusieurs personnes trans avec des identités de genre différentes et des parcours de transition différents sur un plateau, parce que, comme pour beaucoup d'autres minorités, il y a la question de si je mets un, par exemple, je dis série ton, je n'ai plus le titre de la série de peur, quoi. Bref, si j'ai par exemple un seul personnage noir dans une série, du coup, il va venir porter un propos sur ce que c'est d'être noir. Si j'en ai 10, en fait, j'ai des personnages qui sont complexes, qui ont une diversité, qui peuvent avoir des défauts qui ne sont pas en tant qu'eux. Et du coup, sur la question trans, il y a la même chose. Dans un film avec des trans, il y a généralement en fait, une trans en général. Et du coup, l'expérience de la transidentité va être résumée par un seul personnage qui, du coup, vient être l'essence de ce que c'est qu'être trans. Et donc là, il y avait vraiment la question, il y a le discours qu'on produit, mais aussi le fait de dire, bon, en fait, c'est une multiplicité d'expériences, c'est une multiplicité de personnes, et il y a autant d'expériences de transidentité que de personnes trans.
Oui, et complètement. Et il y a une seconde chose, je crois que ça m'apporte, moi, en tout cas, de mettre ça sur scène. Déjà, je le mets avec une distance, c'est pas ma véritable histoire que je mets, c'est une histoire romancée, fictionnelle, c'est une auto-fiction. Parce que en fait, mon intimité ne m'appartient qu'à moi et n'a rien à faire ici sur le plateau. Donc c'est une construction qui a un objectif fictionnel, évidemment, même si je dis des choses qui sont vraies également. Mais également, ce qu'elle m'apporte, en fait, c'est peut-être de me proposer un moyen de me regarder, de donner à voir, et de dire, en fait, cette expérience que je vis sur l'identité, sur le genre, c'est pas une chose qui n'est que pour moi, qui n'est que pour les personnes trans. En réalité, les personnes cisgenres vivent également un rapport à leur genre, et en observant ce que je raconte sur le genre, sur cette expérience étrange, en fait, toutes les personnes de la salle peuvent aussi se dire, mais alors, attendez, moi, qu'est-ce que je vis ? À quoi ressemble, sans forcément dire que je suis une personne trans, mais juste se dire, moi, en tant que... C'est quoi un genre ? C'est quoi le genre ? Et comment moi, je l'expérimente ? Et en l'expérimentant, je peux en prendre conscience, et donc voir s'il me va, jouer avec, et se dire, c'est un construit, comme il est construit, je peux le construire.
Et j'ai l'impression qu'il y a aussi, en plus petit, et aussi une dimension de pouvoir se permettre de jouer avec ces choses-là. Parce que c'est quand même, ça vient avec des cultures, cette queerness, cette transidentité vient avec des cultures, avec des private jokes qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction des gens. Et où j'ai l'impression qu'on avait envie de pouvoir s'autoriser aussi ce type de... Enfin, de pouvoir jouer avec ces choses-là, de pouvoir jouer avec ces codes, de pouvoir avoir vraiment une dimension de jeu, de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe si on utilise du gel hormonal pour, sur le plateau pour pouvoir bidouiller avec des robots avec ? Qu'est-ce qui se passe si, comme c'était le cas dans un autre numéro, si j'essaye de pitcher ma voix en fonction de comment je bouge, j'essaye de pitcher ma voix vers le bas, en passant par un logiciel ? Si je modifie ma voix, est-ce que le logiciel de reconnaissance, parce qu'il y a des logiciels qui reconnaissent si c'est des voix masculines ou féminines, comment est-ce que je peux naviguer à l'intérieur ? Si je prends la voix de Marine Le Pen, est-ce que ce logiciel, jusqu'à quand ce logiciel me reconnaît comme une femme ? Si je la mets de plus en plus grave, où est-ce que s'arrête la chose ? Où sont... c'est des recherches qui, moi, je trouve intéressantes et joueuses, de me dire, même si là, dans cette version-là, on n'a plus, je prends les exemples de la voix, mais on n'a plus les numéros sur la voix, c'est une version différente. Mais typiquement, cette recherche de quel type de phonème, est-ce que c'est juste grave, juste aigu, en passant par les logiciels de modification vocale, où est-ce que je peux me balader en modifiant telle voix, jusqu'à troller finalement la binarité de ce logiciel qui disait, ah bah tiens, telle voix masculine, telle voix féminine. Donc il y a cette dimension de jeu aussi.
Oui, et le jeu, ça reste quelque chose de très important. C'est-à-dire que là, on est en train de... Là, c'est très sérieux ce qu'on est en train de raconter sur les trans, les machines, tout ça. Mais en fait, le spectacle, l'objectif, ça, c'est le comique aussi. C'est le rire, c'est de se dire, ah, c'est pas grave. Dédramatisons cet enjeu de transidentité, cet enjeu de rapport à la machine, aux IA. En fait, c'est des choses qui sont simples, et si on prend le temps de rire avec, en fait, on peut se les emparer. Parce que quand on rit, on est avec la chose, on la comprend, et donc on peut la dédramatiser, essayer d'avoir un rapport plus sain et plus simple avec aussi, quoi.
Et j'ai l'impression que le processus de vulgarisation, que ça soit sur l'IA ou sur les questions de transidentité, vont dans le sens de se dire comment est-ce qu'on fait pour donner au public le plus facilement possible le moyen de rire avec nous des blagues qu'on va faire ensuite ensemble.
C'était pour la participation à l'intelligence artificielle du coup dans l'écriture. Est-ce que dans les droits d'auteur après, c'est quelque chose que vous avez pris en compte? Comment ça se discute?
MDR, non. Parce qu'on n'a pas du tout, on n'a rien déposé à CD, on s'est dit c'est une performance, ce qu'on crée ici n'est pas une œuvre qui a pour but d'être existe ailleurs que là, donc on a dit c'est bon, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de droit de mise en scène, mais ça c'est parce que des questions politiques différentes aussi de nos rapports à ce que c'est que le droit d'auteur, mais du coup, non, il n'y a pas du tout de rapport au droit d'auteur.
On dira rien.
Merci. Nous balancez pas la société.
Elle écrit un texte différent chaque soir, donc en fait, rien dans le spectacle, avant qu'on le joue, chaque soir, rien dans le spectacle n'est écrit par l'intelligence artificielle. Elle l'écrit à l'instant T, puis tout ce qu'elle a écrit sera jeté pour le lendemain.
Je crois qu'on va devoir s'arrêter là pour des raisons de timing. J'en suis un peu confus, mais on avait dit 30 minutes et on les a largement atteints. Je vous remercie beaucoup.